This is CKCU Literary News, les actualités littéraires dans le monde francophone.
Voici de Montréal.
Une émission consacrée à la nouvelle littérature québécoise, fiction, poésie et essais, une coproduction du webzine La Recrue du Mois.
Et de CKCU Literary News, réalisée par
Lucie Renaud
et Hanske Auger-Ruprecht.
Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission des actualités littéraires sur CKCU Ottawa. Je reçois aujourd'hui Geneviève Damas pour le livre « Si tu passes la rivière », édité tout récemment dans la collection Hamac chez Septentrion, mais d'abord publié en Belgique, qui s'est mérité en 2012 le prix des 5 continents. Alors bonjour Geneviève.
Bonjour.
Alors Geneviève, tu es une femme de théâtre à la base. Pourquoi avoir fait le saut, avoir décidé de plonger dans le romanesque?
Alors en fait, au début, moi j'écris pour le théâtre et ça ne me semblait jamais de l'écriture. C'était une manière de réaliser un spectacle. Il faut plein de choses pour réaliser un spectacle. Il faut des costumes, des décors, de la lumière, des comédiens, metteurs en scène et un texte. Et donc voilà. Mais petit à petit, j'ai découvert que quand j'écrivais, c'était quelque chose qui me plaisait. Ça me faisait du bien, ça m'aidait à me connecter au monde. Et donc, c'est comme un territoire qu'on commence à découvrir. Et donc, je me suis dit, est-ce que tu arriverais à écrire des nouvelles? J'ai essayé. Et puis pour moi, la forme la plus aboutie en littérature, c'est le roman. Et donc, je me suis dit, voilà, est-ce que tu y arriverais? Enfin, c'était plutôt un défi à moi-même, une expérience que j'avais envie de tenter.
Je trouvais quand même que néanmoins, on n'est pas si loin que ça du monde du théâtre dans ce livre-là, dans le sens qu'il y a un discours, on pourrait voir ça comme un soliloque, un monologue. En même temps, il y a des personnages qui s'inscrivent. Ça m'a fait penser peut-être dans le ton à quelque chose comme à Novecento Pianiste de Baricco, où on est au théâtre, mais on n'est pas au théâtre. Alors, c'était comme un prolongement naturel de la voix jusqu'à un certain point.
En fait, avant ce premier roman, il y en a eu un autre. Donc, je voulais m'essayer au roman et je me disais que le roman était une écriture noble et donc quelque part, j'ai abandonné ma manière d'écrire dans ce premier roman qui finalement était très mauvais. Comme quand on va à un mariage et qu'on met un costume qui est un peu trop serré pour être chic et qu'on se déguise un peu et qu'on n'ose pas bouger. Bref, finalement, c'était très ennuyeux, ça me ressemblait pas. Donc, je l'ai fait lire à un ami écrivain qui était un peu, décontenancé, qui m'a dit, écoute, non. Et il m'a dit, mais quand tu écris du théâtre, comment tu fais? Je dis, j'entends une manière de parler, une manière de s'exprimer, et c'est là que j'essaye de retranscrire. Et il me dit, mais le roman, c'est pareil. Donc en fait, je suis partie de ma manière d'aborder la langue par le théâtre dans ce roman, si ce n'est que c'est la parole intérieure de François. Alors que je pense que tout l'art du théâtre maintenant, c'est de montrer la différence entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Tandis que là, François, il est vraiment dans sa pensée, sans limite, sans censure. Enfin, voilà. Il ne trahit pas, il ne ment pas, il parle.
Alors, comment s'est imposé, justement, ce personnage de François, qui est quand même assez atypique, donc une histoire qui se passe dans les années 50, un jeune homme qu'on croit au début peut-être handicapé mentalement, mais qui, en fait, peut-être, c'est qu'il n'a pas le vocabulaire encore pour exprimer ce qu'il ressent. Alors, comment ce personnage s'est-il imposé?
Alors, moi, j'ai fait en Belgique beaucoup d'ateliers d'écriture, donc après avoir publié ma première pièce de théâtre, et j'ai découvert une chose qui pour moi était impensable dans un pays dit développé, c'est qu'il y a énormément d'analphabétisme. Donc on dit qu'en Belgique, il y a une personne sur 10 qui est analphabète, donc il y a énormément de difficultés à lire et à écrire. Il paraît qu'en France, c'est une sur 8, donc quelque part, on est entre guillemets bien logé et encore. Et donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a quelque part révolté et puis qui m'a stupéfait parce que je me suis rendu compte, en tout cas dans ces ateliers, que les enfants et les adultes, quand ils ne savent pas lire et pas écrire, ils le vivent comme une honte, et ils adoptent des stratégies pour le cacher. Donc si on n'est pas un peu au fait de cette question-là, on se fait berner complètement. C'est des gens qui ont tout le temps mal à la tête et qui doivent écrire, qui n'ont pas de lunettes, qui n'ont pas de bic, enfin, je veux dire... Et donc voilà. Et je pense que... Alors je me suis pas dit que j'allais raconter une histoire là-dessus, mais en même temps, c'est quelque chose qui me travaille tellement que finalement, c'est arrivé là. Quand j'ai... En fait, moi, je travaille sans plan. Ça veut dire qu'il y a un grand auteur chez nous que sûrement vous ne connaissez pas, qui s'appelle Jean-Luc Outers. Il dit que écrire, c'est faire advenir une histoire qu'on portait au fond de soi et qu'on ignorait. Donc quelque part, j'ai commencé à écrire et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, c'est la parole de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que ce qu'on imagine. Et donc voilà, et petit à petit, j'ai essayé moi-même de comprendre qu'est-ce qui faisait ça. Comme lorsque on rencontre quelqu'un qui au départ est un inconnu et puis petit à petit, on avance dans son univers et donc voilà. Alors ça a des avantages que écrire de cette manière-là, ben, c'est un plaisir parce qu'on découvre tout le temps et puis parfois ça a des gros inconvénients parce qu'on se rend compte qu'on a fait des problèmes de structure et qu'on est calé. Donc voilà, mais rien n'est parfait.
Mais je pense aussi que pour le lecteur, ça demande de s'adapter à cette voix. Alors dans les premières pages, on est un peu comme, bon, où est-ce qu'on va et tout ça.
On est ballotté,
et,
oui.
Et puis finalement, on finit par se dire non, en fait, je veux savoir ce qui lui arrive et puis il y a quelque chose c'est qu'on veut justement apprendre à le connaître, là.
Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, parfois on me dit, au début c'était difficile, j'ai dû m'accrocher parce qu'on, en fait, on rentre dans une pensée qui n'est pas la nôtre, dans une vision du monde qui n'est pas la nôtre. Et si c'était un narrateur à la troisième personne, forcément, on peut avoir une certaine distance par rapport à ça. Tandis que là, on est obligé de suivre la pensée du personnage. Et effectivement, il faut parfois un petit temps d'adaptation pour rentrer dedans. Et puis une fois qu'on a compris comment il fonctionne, je pense que c'est plus aisé. En même temps, pour moi, c'est important que le lecteur puisse faire l'expérience intime de ce que c'est, en fait, cet esprit, quelque part, sans culture, cette manière d'essayer de se débrouiller en n'ayant pas les codes ni les mots.
Mmh. Et puis, la part, justement, des animaux qui servent, d'une certaine façon, d'interprète au début du roman, qui, à la fin, finalement, il peut dialoguer avec des humains. Alors, ça va, on dirait que...
Oui, c'est comme
ça,
si...
Ça s'est transformé en cours de route, là.
C'est comme s'il passait de l'état de bête ou de l'état animal à l'état d'humain, grâce à la culture et au langage, sans diminuer, minimiser l'apport des bêtes, hein. C'est vraiment pas un jugement, mais au départ, vraiment, il fait partie du monde des bêtes. Il n'a pas de place parmi les humains. Et petit à petit, il va conquérir sa place au milieu des humains, tout en n'oubliant pas ce qu'il doit au monde animal.
Tout à fait. Alors, le choix de son manuel de lecture, finalement, avec l'Auberge de l'Ange Gardien de la Comtesse de Ségur, c'est pas gratuit, là, j'imagine. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre?
Alors, bon, ça, c'est par rapport à mon histoire, c'est que moi, petite, c'est ça qu'on m'a lu. En même temps, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il va demander au prêtre de lui apprendre à lire et à écrire. Or, le prêtre est bien embarrassé, que lui donner comme lecture? Or, c'est vrai que si on relit la Comtesse de Ségur à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de rapports à la religion, même parfois il y a un peu de bondieuserie. Même si, d'une autre manière, on peut dire qu'elle a été fort avant-gardiste, parce qu'elle se met vraiment du côté du faible et du pauvre, ce qui, vu sa condition sociale, est un peu étonnant. Et en même temps, cette histoire, elle commence comme ça, à l'Auberge de l'Ange Gardien, ces deux enfants abandonnés qui vont mourir de faim et de froid en pleine campagne. Leur mère est morte, leur père a été enrôlé de force à la guerre. Donc ce qui se passait, et dans ces cas-là, voilà, les enfants, on les laissait là. Et donc, il y en a un de 6 ans, un de 3 ans, et voilà. Et en fait, il y a un animal qui les découvre, qui est le chien qui s'appelle Capitaine, et c'est un conscrit qui a été libéré, enfin, après une blessure, et qui, lui, va s'occuper de ses enfants, il va les confier à une auberge, et il y a comme une idée que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un endroit pour vous, il y a toujours quelqu'un qui va, quelque part, vous sauver et veiller à votre bien-être. Et donc... François s'identifie complètement à cette histoire, alors qu'en fait, il devrait y avoir une distance de lecteur. Mais non, pour lui, c'est vraiment le chemin. C'est que sa vie, ça va être ça. Et quelque part, cette croyance-là l'amène à voilà, cette réalisation-là.
Alors, la Comtesse de Ségur, c'est le premier auteur marquant dans l'univers de lectrice de Geneviève Dama?
Oui, je pense, c'est ça. Puis il y a Mark Twain et il y a Jules Verne. En fait, c'est les livres que, petite, quand je ne savais pas lire, mon papa me lisait le soir. Ça m'emmenait dans des voyages, dans des univers incroyables. Par exemple, j'ai des souvenirs du Tour du Monde en 80 jours. Et quand on est petit, qu'on n'a pas beaucoup voyagé, on s'imagine des images, on se fait un film dans la tête qui n'a rien à voir après avec le film du réel. Mais voilà. Et donc la Comtesse de Ségur aussi, je trouvais que c'était des personnages hauts en couleur et qu'elle mettait aussi des défauts. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors aussi, il y a toute une réflexion en fait que l'écriture et la lecture surtout permettent à François de s'émanciper, permettent de devenir lui-même une personne, de se libérer de toutes sortes de choses. Alors c'est quand même au niveau du lecteur, je trouve ça intéressant aussi de se rappeler en fait que... La chance qu'on a de pouvoir lire et de pouvoir réfléchir par soi-même à travers un livre, justement.
Ah oui, mais ça, c'est sûr que, moi, je pense que, bon, la lecture, la littérature, l'art sont des liens sociaux, mais aussi nous permettent de mettre autre chose que la violence. Enfin, une fois que François a les mots, il peut résoudre des choses très lourdes autrement. Et puis je voyais, par exemple en Belgique, nous aussi on a deux cultures, il y a la culture néerlandophone, la culture francophone principalement, parce qu'on a aussi une région de langue allemande. Et je voyais que je devais avoir un rendez-vous avec une néerlandophone, et c'est la bibliothécaire de l'endroit où j'habite. Et donc, j'étais un peu stressée de ce rendez-vous. Et puis donc, je mène le rendez-vous en néerlandais. Et puis à la fin, elle me dit, écoutez, le nom de votre compagnie, c'est Albertine. Est-ce que ça a à voir avec Marcel Proust? Je dis oui. Alors elle me dit en néerlandais, ik wist het, ça veut dire je le savais. Et alors, elle me dit, mais vous savez, quand André dit à Marcel qu'elle a eu une relation avec Albertine, vous pensez que André dit la vérité? Alors je dis, ah, j'y avais jamais pensé, pour moi elle dit la vérité, mais elle me dit, je crois qu'elle ment. Alors après, je téléphone à d'autres amis, et donc, pour savoir, est-ce que vous pensez comme si André, Marcel, Albertine étaient vrais? Enfin, je veux dire, le monde de la fiction nous crée une famille aussi, et donc je trouvais ça formidable, et donc pour moi cette femme n'est plus... Enfin, elle est néerlandophone, mais je ne la vois plus en tant que néerlandophone. Je la vois en tant que personne qui est passionnée par la recherche du temps perdu. Et donc, j'ai l'impression que l'art, la littérature, le cinéma nous font vivre des émotions qui sont aussi quelque part la vraie vie et qui nous relient. Et donc, voilà.
Qui nous permettent de nous ancrer peut-être un peu mieux dans ce monde qui parfois nous échappe aussi.
Tout à fait. Et de nous remettre une cohérence aussi. Par exemple, pour François, lorsqu'il lit... L'auberge de l'ange gardien, forcément, il y a une cohérence, ça donne une cohérence à sa souffrance ou à sa solitude. L'idée que c'était pas inéluctable. Comme lui le pense au début du livre, c'est pour ça qu'au début, ben, il ne se passe rien, les journées sont les mêmes. Et une fois qu'il y a cette petite porte que la littérature ouvre dans sa vie, les choses changent et il les met dans une autre perspective.
Tout à fait. Il y a aussi dans le livre toute la dimension du secret, finalement, qui, à force d'avoir les mots, on finit par être capable, pas nécessairement de le révéler, mais peut-être même de l'accepter. Dans le fond, peut-être a-t-il toujours été là et que, qu'il le savait ou qu'on lui a pas dit. Je trouve que c'est intéressant de ce côté-là que les mots de régler, d'accepter ce secret finalement.
Oui, oui, tout à fait. Et puis ça lui donne une autre... Le fait d'avoir les mots donc lui permet d'aller au bout du secret, de poser les questions, de ne plus avoir peur, de ne plus se sentir pieds et poings liés face à une vérité qu'on ne lui dira jamais. Et en même temps, il va commencer à apprendre son identité. Donc, il va changer aussi parce qu'il va comprendre qu'il n'est pas celui qu'il croyait qu'il était.
Tout à fait. Alors, j'ai noté dans le texte lui-même qu'il disait « Parce que je commençais à le sentir qu'avec les lettres que j'apprenais, il y avait comme une nouvelle route là devant et que je ne pouvais l'apprendre que seul. » Est-ce que l'écriture et la lecture, c'est essentiellement un geste solitaire? Ou est-ce qu'on écrit pour être lu et partager quelque chose avec l'autre?
Alors, il y a plusieurs moments de la lecture et de l'écriture. Bon, je pense que quand François dit ça, c'est par rapport à... Bon, il passe son temps avec les cochons et donc il se rend compte à ce moment-là qu'il est un être humain et qu'il ne sera pas un animal et que ça, il ne pourra pas le partager. Bon, je pense que le temps de la création, il est souvent solitaire. Enfin bon, en théâtre, ça peut être de la création collective. Mais en même temps, on ne peut pas être seul en tant qu'artiste. Je pense que ce qui nous nourrit, c'est en tout cas, c'est le groupe. Je pense que un écrivain n'existe que parce qu'il y a tous les autres métiers, les autres situations du monde, et c'est ça qui nous nourrit et nous touche. Et puis c'est très beau ensuite le moment de la rencontre avec déjà l'éditeur et avec le lecteur. Donc j'ai l'impression que c'est tout le temps passé de la solitude à la rencontre, Mais si on reste dans la solitude, je pense que ça n'a aucun intérêt. Pour que ce soit la littérature, il faut la confrontation avec le lecteur.
Alors cet échange avec le lecteur, maintenant au Québec, est-ce que la rencontre a été différente?
Alors oui, la rencontre est différente, c'est étonnant. Donc en Belgique, ce texte a l'air un peu d'être un ovni. Ça veut dire que ils disent que c'est un roman surprenant, déroutant. Quand j'arrive ici, au Québec, c'est comme si je parlais une langue que vous comprenez. Mais ça s'inscrit, on me parle d'autres romans, de romans du terroir et tout ça. Et donc ça, c'est très étonnant de voir les ponts et les liens. Et en France, c'est aussi un peu la même réaction qu'en Belgique. Et donc ça, c'est très étonnant de sentir que peut-être qu'on appartient quelque part et c'est pas toujours l'endroit où on imagine.
C'est ça, peut-être que la terre natale, d'une certaine façon, c'est juste un état d'esprit là dans ce cas-ci.
Oui.
Alors la langue que l'on parle en tant qu'écrivain.
Mais ce qui est beau avec le français, qui est aussi en Belgique partiellement une langue qui nous a été imposée, ou voilà, c'est, enfin, il y a 220 millions de personnes qui parlent français dans le monde. Donc quelque part, c'est aussi notre patrie commune, cette langue. Et donc, il me permet de nous comprendre, parce que ce qui est merveilleux aussi, c'est qu'au Québec, on peut lire mon livre sans traduction.
Tout à fait.
Alors que la traduction bouge toujours un petit quelque chose qu'on n'est pas capable de percevoir. Donc voilà, peut-être que voilà, j'appartiens à cette patrie-là et que...
Et c'est ça, il n'y a pas, mais au niveau du vocabulaire, il n'y avait rien qui posait problème là pour un lecteur québécois. Là.
Non, non, tout à fait, mon éditeur n'a rien retouché.
C'est ça, alors de toute façon, on se dit souvent en fait que les Québécois sont plus proches des Belges que des Français, alors ça le démontre une fois encore.
Je pense que ce que nous partageons, c'est que nous partageons le dialogue avec plusieurs cultures au sein de ce pays et qu'on doit toujours relativiser et puis aussi Je ne sais pas. Enfin, en Belgique, on a tout le temps été un pays traversé, nous. Donc, on n'a pas été sous domination. Et donc, pour dominer un pays, il faut pas le connecter à sa culture, parce que sinon, il veut devenir indépendant, ce qui nous est quand même arrivé, mais il n'y a pas tellement longtemps. Et donc, on a toujours l'idée que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, en France, est toujours mieux. Et donc, ce qui est gai, enfin, dans le sens joyeux, de rencontrer des gens au Québec, c'est qui, enfin, je sens qu'il y a le plaisir de la création, la vivacité de la création, mais il n'y a pas d'ego sur cette création. Et je sens qu'en Belgique, on a ce côté aussi de ne pas avoir d'ego. On est encore dans une... La Belgique est indépendante depuis 1830, donc la littérature belge, elle est encore en train de se créer, de se faire. Elle est toute jeune. Et donc, voilà.
Est-ce que la littérature belge a une personnalité ou pas encore, en fait?
C'est difficile, il y a de multiples courants. En même temps, je pense que ce qui s'écrit, en tout cas en littérature belge francophone, mais la littérature belge néerlandophone est très vivace aussi, est très intéressante, c'est quelque chose qu'il n'y a nulle part ailleurs. Et donc, en cela, elle existe, même si elle a diverses ramifications, enfin, divers courants.
Donc, une voix indépendante comme celle de la littérature québécoise.
Je pense.
Alors, de gagner le prix des cinq continents, quand même, c'est pas rien, là. On parle d'un bassin énorme de lectorat, de se retrouver justement membre d'une communauté de francophones. Ça a dû quand même être un plaisir, là, un velours. Et la compétition était quand même assez solide, là.
Oui. Alors, ce qui est magnifique, c'est que mon éditrice a fait, entre guillemets, tout ça en cachette. Ça veut dire qu'elle l'a envoyé. Et puis quand j'ai appris que j'avais le prix des cinq continents, j'ignorais tout et je ne n'attendais pas. La seule chose qu'ils m'ont dit et qui était formidable, c'est qu'ils m'ont dit maintenant vous allez voyager. Et moi j'avais très peu voyagé, j'étais venue en Europe, enfin j'étais en Europe, mais j'étais à New York et j'étais venue déjà à Montréal. Mais voilà, j'étais au Sénégal, en Mauritanie, en Haïti, des pays que j'ai découverts avec aussi une énergie de création. Avec des problématiques différentes, des revendications différentes. Et ça, pour un écrivain, c'est extraordinaire, ça vous ouvre l'esprit. Enfin, voilà. Ça, c'est le plus beau cadeau. Voilà. Alors, ce qui est formidable aussi, c'est de me rendre compte que, par exemple, donc, j'étais en Mauritanie. Il y a une jeune fille qui est venue me trouver, qui m'a dit, j'ai lu votre livre. C'était très difficile au début, madame. Et j'ai dit, je pensais que c'était lié à la langue. Mmh. Et j'ai dit, oui, je comprends. Elle dit, mais, c'est parce que mon maître n'avait reçu qu'une photocopie sur deux. Alors elle avait la page 1, la page 3, la page 5, et elle a lu jusqu'au bout. En Belgique, je recevrais ça, je ne l'irais même pas. Elle s'est accrochée, elle m'a dit, j'ai beaucoup aimé, madame. Mais c'est vrai qu'elle a dû imaginer, enfin, voilà, ça m'a fort touchée.
C'est une façon intéressante de voir la lecture quand même, quand il manque une page sur deux. Et...
Voilà, et d'imaginer chaque fois ce qui se passe. Mais en même temps, je me disais, voilà, et j'ai senti évidemment en Afrique, la littérature, l'école... C'est très important pour eux. Ils se rendent compte de la valeur ajoutée que ça a. Alors que nous, en Belgique, la lecture, bon, on est tellement entourés de, enfin, de gadgets, mais de techniques et tout ça, de confort. On ne se rend plus vraiment compte. Et donc voilà, ça remet certaines idées en place.
Est-ce que ces voyages, ces découvertes d'autres univers vont influencer le deuxième roman? Ou le deuxième roman est-il déjà complété?
Alors, le deuxième roman est sérieusement en cours. Je ne sais pas, c'est difficile. Ce n'est pas une décision, mais en tout cas, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, travaille.
Est-ce que ça, cette incursion dans la littérature, dans le romanesque, va aussi influencer le travail au théâtre?
Oui, je me suis rendu compte. Alors ça, encore plus peut-être, lié au prix des cinq continents et toutes ces rencontres, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus écrire comme ça, de cette manière classique. Il faut parce que j'écris beaucoup des personnages, des scènes. Et je me suis dit qu'il fallait... Enfin, je trouve que le théâtre le plus intéressant pour le moment, c'est le théâtre qui est aux limites de la théâtralité. Au Québec, l'écriture théâtrale est excessivement vive, vivace. Je trouve que... J'ai l'impression que c'est au Québec qu'on a réinventé la forme. Pour le moment. Après, c'est d'autres pays, mais là, pour le moment, c'est là que ça se passe. Et donc, voilà. Ça, c'est ce que je pensais... Hier, en marchant dans les rues de Montréal.
Alors là, les projets en cours en ce moment, c'est au niveau du théâtre, du roman, tout ça pêle-mêle, la vie à travers tout ça.
Alors pour le moment, c'est achever le deuxième roman, et puis il y a un projet théâtre qui va être long. J'aimerais bien aborder un peu un tabou chez nous qui est ce qui s'est passé avec le Congo. Mmh. Voilà, ça j'aimerais bien, mais on verra.
Est-ce que la Belgique est prête? pour apprendre ça.
On ne sera jamais prêt. Non, non, parce que toute l'Europe, la difficulté de toute l'Europe, c'est de regarder en face, je pense, ce qui s'est passé, ce qu'elle a induit, ce qu'elle a provoqué au nom apparemment d'une religion ou d'un côté, on est les bons Européens qui vont... Et c'était, il y avait quand même beaucoup d'intérêts économiques en jeu. Enfin, par exemple, moi, j'ai découvert dans un livre, mais c'est incroyable, j'avais jamais pensé ça. Donc, ben, Hiroshima, j'ai toujours pensé, je me suis toujours dit, les vilains Américains. Et en fait, quel est le pays qui a vendu l'uranium et qui a reçu 2 milliards et demi de dollars pour reconstruire son pays ? C'est la Belgique. Mais ça, chez nous, on ne le dit pas.
Voilà. Ouais. C'est ça, l'histoire est toujours un mensonge, de toute façon, c'est une question de point de vue, dépendant à qui la raconte.
Il y a des secrets, il y a des tabous, j'imagine, comme dans les vies, mais ouais. Ils sont peut-être plus lourds.
Tout à fait, j'aimerais que peut-être que nos auditeurs puissent entendre la voix de l'auteur dans les mots de l'auteur. Alors, peut-être un petit extrait du livre. « Si tu passes la rivière », édité tout récemment dans la collection Hamac chez Septentrion, mais d'abord publié en Belgique.
À ce moment-là, je me suis demandé comment on reconnaissait une mère. Ce qui faisait d'elle une mère. À quel moment tu te dis, elle, c'est une mère. Pour reconnaître un cochon, c'est simple, tu le vois que c'est un cochon, même s'il a perdu une patte ou une oreille, même s'il ne grogne plus ou qu'il est couché la gorge ouverte. Et j'ai pensé qu'une mère, alors je ne savais pas ce que c'était. Pour sûr, j'en avais une, pendant 3 jours, qui sûrement avait crié de douleur comme Daisy et Dora, épuisée de souffrance, mais apaisée d'avoir eu après son museau contre le mien. Une mère aimante qui avait repassé des draps, tricoté du petit linge comme Amélie, cette écharpe douce et velue comme de la soie, qui m'avait chanté à l'oreille dans le noir, qui m'avait donné son lait comme la vache, et puis s'en était allée en fumée. 3 jours dans une vie, ce n'est pas grand-chose à bien y regarder. Et je sais que souvent on dit que c'est la qualité qui compte, c'est pas si grave si tu n'as pas autant de fromage que le fermier de l'autre village, s'ils sont meilleurs. Parce qu'il vaut mieux avoir quelques bons fromages que beaucoup de mauvais, parce qu'une fois qu'on aura goûté des tiens, ceux du fermier de l'autre village, on n'en voudra plus. Ça qu'il me disait le Jules, ça qu'il m'entrait dans la caboche. Comme pour le jambon et le saucisson, car si le cochon a été heureux, il n'en sera que meilleur. C'est pour ça que c'est le tour d'Oscar, c'est pour ça justement. Mais 3 jours, qu'est-ce que c'est dans une vie en regard de toutes ces années avec Maryse qui m'avait tiré des cendres?
Alors merci beaucoup Geneviève Damas pour cette lecture d'un passage très fort et très émotif dans « Si tu passes la rivière ». Et on vous souhaitera une bonne continuation dans l'écriture, dans le théâtre, et puis au plaisir, bien sûr, de vous retrouver très bientôt.
Merci.
De CKCU FM 93,1, la radio de Carleton University à Ottawa, Canada, c'était les actualités littéraires dans le monde.